Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, spécial anticipation. Novembre 2015, alerte climatique mondiale. Des dirigeants de partout dans le monde se sont réunis afin de parler climat. Pourtant, les changements nécessaires afin de minimiser la catastrophe imminente ne semblent pas dans les priorités de nos contemporains. Alors, faut-il se préparer au pire? Est-ce la fin des temps? Une chose est sûre, c'est la fin d'un temps. Dans cet épisode spécial, Aube s'est intéressé au jour d'après, si jour il y a. Au sommaire, les fins du monde à travers les âges. Guide de survie en territoire zombie. Je suis une légende ou le post-apocalyptique dans la littérature. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé, anticipation. Je suis né avec le premier Apple doté d'un processeur MOS Technologie 6502 à 1 MHz. Philippe Laramé, un exemplaire. Apple 1, 200 exemplaires. Je me réveille avec le bourdonnement de mon MacBook Pro Bicœur cadencé à 2,8 GHz. Philippe Laramé, un mal de tête. MacBook Pro, 0. J'ai du mal dormir. Ouais, Isaac Asimov que j'ai lu hier qui me résonne encore dans la tête. Je regarde autour de moi, je suis entouré d'esclaves techniques. J'ai grandi avec le premier Commodore VIC-20. C'est mon grand-père, J.J., qui l'avait acheté. C'est drôle, hein? Je me rappelle encore les premiers programmes qu'on avait fait ensemble. Donkey Kong, Burger Time, ou était-ce Pong. On passait une semaine à taper des lignes dans un éditeur de texte, puis on enregistrait ça sur des cassettes. Oh oui, des cassettes audio. Ça, c'était de l'innovation. Pour mon Gigi puis moi, on trouvait ça bien hâte de voir la petite boule en 8 bits se promener d'un bord puis de l'autre de l'écran, après 15 minutes de lecture de la cassette. Puis, le premier Commodore 64. Enfin, des vrais graphiques. Je me rappellerai toujours de mes après-midi passés chez mon oncle François à jouer à Ghostbusters sur son écran deux couleurs. Puis, mon premier ordinateur à moi. Parce que dans ma famille, la tendance, on la suivait. Parce qu'après la console Atari, Coleco, Intellivision, mon père a eu la présence d'esprit de nous acheter un micro-ordinateur Commodore Amiga 500. Ça là, ça c'était de l'innovation. Nous sommes en 1984 et je télécharge mon premier jeu. Pas en torrent là, non, pas en peer-to-peer, avec un modem 1200 bits par seconde. Ça c'est très lent. On enregistrait sur des petites disquettes en plastique. Les disques souples de 5 pouces et quart, c'était tellement dépassé. Une petite disquette en plastique, ça pouvait contenir 720 kilooctets. Pour faire rouler certains jeux, ça me prenait parfois une dizaine de disquettes. Avec mon Commodore Amiga, que j'avais upgradé à 1024 MB de mémoire, ça commençait à torcher. Je devais avoir 9 ans et je faisais mes premiers pas dans la science-fiction de notre époque. Depuis, le monde est devenu fou. 15 ans plus tard, le livre « Le choc du numérique » du philosophe Hervé Fisher sortait en librairie. C'était 6 ans après Windows 95 et les premiers voyages sur Internet. Le début de l'ère du numérique, qui disait. Napster, Netflix, Open Source, Wikipédia, Google, Bluetooth, iPad, autant d'innovations technologiques qui nous côtoyaient au quotidien. Les informations invisibles nous traversaient le corps par Wi-Fi, dématérialisation de notre vie privée aussi. Juste ici, je me rends compte de tout ce que ça me demande en termes de ressources pour que vous puissiez entendre ma voix en ce moment, que ce soit en direct là, sur la bande FM ou en balado via la bande passante. Parce que même en 2077, communiquer avec mon moi de 2015 par le biais de ses rêves est encore assez gourmand en termes de ressources. Même si je sais qu'il y a peu de chances qu'il s'en rappelle à son réveil, à part le fameux mal de tête de ce matin-là où il écrivait ces quelques lignes, tel un Nostradamus de la bande FM, murinant les runes de son ordinateur tout équipé, hameçon lancé dans le courant de la fibre optique de son époque. Je rêvais de voyage dans l'espace. Je rêvais aussi de voyage dans le temps, mais ça, c'est une autre histoire. J'avais eu la chance de diffuser ma voix dans la dite espace par notre antenne au sommet du parc olympique. J'aimerais bien calculer à quelle vitesse nous voyage l'émission Hope en ce moment en 2077. Dans combien d'années celle-ci sera écoutée par une civilisation xénomorphique étrangère à notre espace-temps? Avec les progrès en astronomie, en physique quantique, dans les énergies paraphysiques ou encore dans les médecines transhumanistes, sans oublier l'hygiène moléculaire, les nanoterminologies, la miniaturisation moléculaire, la décorporation ericksonienne, je regarde vibrer mon téléphone omniscient et je repense à l'année où j'ai hissé Hope sur les ondes hertziennes. La première fois que je me suis téléporté, je dois vous avouer que j'avais un peu peur. Et je vous parle pas de mes premiers pas sur la Lune et de mon étoile de miel sur Mars. À 103 ans, il était temps que je me marie avec le clone de mes rêves. Mes demoiselles cyborg d'honneur étaient toutes excitées. Une vraie carte postale onirique que de voir toutes ces boîtes de conserve cahoter en silence derrière notre petit croiseur de plaisance. C'est drôle, je me rappelle comme si c'était hier de ma première série télé que j'ai téléchargée. Un remake japonais d'un film de samouraï des années 50 qui avait inspiré le classique La Guerre des Étoiles. Je regarde mon téléphone omniscient qui imbrique tout le savoir en temps réel de l'humanité et je me dis que l'innovation n'était peut-être pas si pire finalement. Même si cette dite innovation nous avait coûté une planète pour le comprendre, la terraformation du système solaire pouvait enfin débuter. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Repentez-vous, pauvres pêcheurs de morue. La fin du monde est proche.
L'Apocalypse, c'est de l'histoire ancienne. Depuis l'enfance de la civilisation, on nous raconte la fin du monde et on nous la prédit à chaque 1000 ans. Faut croire que nous sommes des créatures avides de sensations fortes et un tantinet pessimistes. Voyons un peu un petit bréviaire d'eschatologie ou de l'étude des fins du monde.
Nous savons tous que le monde, l'univers, naquit du Big Bang. Cette explosion titanesque qui nous propulsa tous dans l'espace-temps il y a de cela quelques milliards d'années. Mais quand le monde prendra-t-il fin?
Selon certaines mythologies, le monde aurait déjà connu plusieurs fins. C'est-à-dire que nous vivrions dans une version renouvelée de notre monde. Les Amérindiens parlent de 3 fins du monde à ce jour. Toutes ont eu lieu de la main d'un élément naturel différent. L'eau, la foudre, le feu. Nous en serions justement rendus à la purification par le feu selon nos frères et sœurs rouges.
Au tout début, il y eut une vraie méga-catastrophe qui décima la planète d'environ 90% de la vie. Il y a 65 millions d'années passées, une météorite percuta la Terre en apportant les premières versions des visions apocalyptiques.
Nous devons attendre le déluge pour avoir un souvenir d'homme de la fin du monde. Par hasard, plusieurs cultures à travers le globe partagent un souvenir de déluge. Les Africains, les Amérindiens. En continuant avec la tradition chrétienne, nous avons tous, en bon petit catholique, entendu parler de l'Apocalypse de Saint Jean qui annonce la fin des temps, où le tiers des étoiles, le tiers du soleil et le tiers de la lune s'effondreront sur la terre et les océans deviendront des brasiers de flammes infernales et qu'alors nous entendrons les trompettes du jugement dernier. Le seul problème, c'est que la date n'est pas annoncée.
Mais coup de théâtre! Un vieux manuscrit de Sir Isaac Newton, le père de la physique moderne, vient tout juste d'être découvert. Le vieux savant prédit la fin du monde pour 2060 sur la base de calculs réalisés à partir de la Bible. Restons à l'écoute, car il aura peut-être plus de chance que Nostradamus.
Les islamiques aussi prédisent une fin du monde pendant laquelle l'ange Israfil sonnera 3 coups de clairon. Le premier amènera la terreur. Le second annoncera la mort de toutes les créatures de Allah. Et le troisième coup annoncera la résurrection des créatures. Au moins, la fin est joyeuse. Les Juifs, quant à eux, avec la science de la Kabbale et leur interprétation des chiffres, prédisent la fin du monde le 10 avril 2014 à 5h, 10 minutes, 0 secondes et 9 centièmes.
Avec le calendrier grégorien, on annonce la fin du monde en général à chaque 1000 ans.
C'est au Moyen Âge que la croyance populaire se laissa le plus emporter. Imaginez la synchronicité. Les astronomes annonçaient la venue de la comète de Halley. Nous pouvons voir une représentation de cette prédiction dans la tapisserie de Bayeux, en France. Une œuvre unique de tissage médiéval qui décrit la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et plus près de nous, il y a eu de la farce du siècle, le bog de l'an 2000.
Mais la prédiction majeure, c'est celle du calendrier Maya.
Les Mayas, dans leur grande science, ont élaboré un calendrier très complexe en accord avec les astres. Nous approchons très bientôt de la fin du grand cycle de quelques milliers d'années. 2012 était l'année fatidique, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre sous les ponts, aussi virtuelle puisse-t-elle être. Alors, un événement d'une amplitude difficilement imaginable nous tombera dessus, comme le ciel des irréductibles Gaulois. Certains parlent d'inversion des pôles, d'autres de cataclysmes climatiques. Mais à en croire les Mayas, nous assisterons à un bouleversement cyclique qui revient nous visiter après un long voyage.
Alors, avez-vous peur? Ce n'était pas le but de l'expérience. Il est simplement intéressant d'observer l'humanitude paranoïaque qui imagine courir vers sa perte. En attendant le déluge partie 2, il serait bon de noter que la fin du monde est et sera probablement la fin d'un monde, et qu'il y aura toujours un nouveau commencement. Serons-nous de la fête? Serons-nous les élus? Dieu seul le sait, le diable sans doute, puis moi, je ne le sais pas pantoute. Maintenant que nos pendules sont à l'heure, j'espère que nous dormirons sur nos deux oreilles. Alors, joyeux nouveau monde! C'était un texte de Frère Ours, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Marie-Claude Journeau.
Et de Philippe Laramie.
Napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours when it was all over. I walked up. We didn't find one of them, not one stinking big body. Smell! You know that gasoline smell? Oh, hell! It smelled like.
En 2010, les dépenses militaires totales ont été de 1630 milliards de dollars américains. De cette somme, 43% ont été dépensés par les États-Unis, 18,4% par l'Union européenne, 7% par la Chine et 3,2% par la Russie.
Jour de souvenir des deux dernières guerres, je médite sur leurs séquelles vécues par mes proches, disparus ou pas, et m'interroge encore sur leurs conséquences et légitimité. Celles plus récentes d'Irak, du Darfour, de la Palestine ou de la Syrie, sans oublier la menace réelle d'un conflit avec l'Iran, la Corée, la Chine ou la Russie, avec nos voisins trop armés, un éventuel collabo à la barre, nous rappelant que le pire peut survenir n'importe où et quand. Mais quand justement faut-il aller à la rescousse de nos alliés? Quel prix faut-il payer pour se défendre, sauver l'honneur ou honorer les valeurs de notre pays et pseudo-démocratie? En tant que fille, nièce et petite-fille de militaires forcés, je connais les efforts déployés pour notre pseudo-liberté et réalise que nos sacrifices sont minimes à côté de ceux de nos mères et grands-mères, leurs époux et fils éplorés. Dans mon village d'origine, notre ferme fut occupée par trois armées successives, allemands, français, américains, qui tour à tour ont pillé tout ce qu'il avait de comestible. Sans oublier les souvenirs amers laissés dans la mémoire, si ce n'est dans la chair et le cœur des trois filles de la maison, ma pauvre maman y compris. Comme bien des Alsaciens, les hommes des deux clans de ma lignée furent engagés de force dans l'armée allemande, de ceux qu'on nomma les malgré nous. 7 jeunes hommes sont partis, 4 en sont revenus vivants mais ô combien abîmés. Le plus jeune, Charles, poète blondinet de 17 ans, frère de maman, est tombé dans les premiers jours au front russe, chair à canon de première ligne, un classique pour les minorités, québécois en Normandie compris. Du côté de papa, ses frères Louis et Joseph, 20 et 22 ans, ont été zigouillés dès les premiers jours, on ne sait trop où, au front de l'Est. Leur mère, veuve à 40 ans, d'un homme brisé, déjà gazé à la première guerre, a élevé dans la misère ses 9 enfants restants. Sort similaire pour le père de ma maman, Louis Feu, mon grand-père, fermier jadis prospère, qui a fait les deux guerres et racontait cette anecdote vécue au front de 1914. Son sergent lui a crié « Tirez, mais tirez donc, Sigrist, vous ne voyez pas l'ennemi juste là en face ?» Sa réponse fut alors « L'ennemi, mais quel ennemi ? Je ne vois que des pauvres types qui, comme moi, font dans leurs culottes de trouille. » Quelle horreur, quelle tristesse que la dernière grande guerre, la drôle de guerre. 60 millions de morts en 6 ans à cause d'un fou démoniaque qui voulait dominer le monde avec sa pseudo-race pure. Haine crasse des juifs, des homos, des tziganes et des intellos. De tous ceux qui réfléchissaient, qui protestaient, qui furent et qui sont marginaux. Méfions-nous des pensées uniques et des pseudo-élus divins, devenus trop vite, trop puissants, le peuple mouton avançant au pas de loi, bras en l'air, à l'arrière. Et oui, quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent et les femmes qui pleurent. Ici, au Québec, la réalité était moins sanglante, mais pas douce non plus. La Grande Dépression a stimulé la conscription, même si la production d'armes par les femmes fut très payante. Pacifiste, je suis, c'est sûr. Mais contente tout de même que les alliés d'alors aient écrasé les nazis. Un peu tard, faut avouer, mais la faute à qui? Tout de même, Dieu merci pour la démocratie. Fasse le ciel que nos héritiers s'épanouissent riches de ces leçons, sans plus jamais de guerre ni de bataille intestine mortifère. Hélas, pas si simple, parfois nécessaire pour protéger nos valeurs et territoires. Tentant de bâtir un monde meilleur pour tous les vivants et leurs descendants. Mais souvenons-nous, souviens-toi.
Un texte de Annie Schneider, du nom de « Souvenir amer, plus jamais de guerre ». Thank you. pour notre petite balade dans l'espace, l'astronaute que je suis a été se balader du côté de la maison d'Aurore, rencontrer l'avant-garde de la civilisation humaine, ce qu'il et elle pensaient de l'espace, de l'univers et du reste. Je ramène dans mon vaisseau spatial leurs curieuses réponses. À la question « Quel est votre film de science-fiction préféré? », la discussion a naturellement dérivé sur les jeux vidéo.
Ben, moi, mon émission préférée, c'est Comic Vesta. C'est la même chose, ça parle de la galaxie, ça parle des étoiles, ça parle des trous noirs, ça parle de plein de choses.
Je suis sur Mars. C'est un film où c'est une équipe qui va sur Mars. Je pense qu'ils veulent trouver comme des objets.
Moi, mon jeu préféré, c'est Battlefield 4.
Ah oui.
Parce que c'est aussi de la science. Puis, moi, j'aime ça parce que ça a beaucoup de l'action.
C'est un jeu qui s'appelle Stupid Test. C'est que tu réponds à des questions. Et à la fin du jeu, ils te posent des questions de l'espace.
Mon jeu préféré, c'est Call of Duty parce qu'il y a de la science. Puis, ils inventent des trucs là, pour les bras. Ils montent ici, maintenant que tu te fais couper la main, ils vont te la refaire.
À la question « Est-ce que vous croyez que l'humain va un jour voyager dans l'espace? » Leurs réponses furent
« Ben, moi, oui, puis non, parce que, ben, peut-être dans le futur, parce qu'on aura plus de technologie, mais ma raison de non, c'est parce que c'est trop dangereux, puis que ça prendrait trop longtemps, même si dans le temps de l'espace, le temps va plus vite, ça serait juste trop long. »
Ben oui, parce que les astronautes ils ont comme une combinaison spéciale pour respirer. Mais c'est un peu dangereux en voyageant dans l'espace parce qu'il peut y avoir des météorites qui peuvent cogner la fusée. Puis il peut y avoir un trou.
La fusée va tomber dans une terre, elle va se briser et ça va exploser.
Oui, parce que ça est déjà arrivé, il y a des personnes qui sont allées sur la Lune.
Une fois, venu du marché avec ma mère, j'avais vu une planète.
Laquelle?
Mais en tout cas, c'était la nuit.
On dit que Pluton va peut-être revivre.
Ben, il nous a expliqué le Big Bang, comment ça l'a créé, puis la première... Si je me rappelle, c'est que la première planète qui a existé, c'était le Soleil.
Ce qui est le plus important, c'est que l'astronaute doit savoir comment on conduit une fusée. Il doit savoir comment la contrôler pour pas s'écraser sur une Terre.
J'étais très intéressé de savoir si les jeunes pensaient qu'il existait des civilisations ailleurs dans l'univers.
Ben, moi, je pense que oui, il y a d'autres vies sur d'autres planètes, parce que moi puis ma mère, des fois, on regarde le ciel, puis il y a comme des genres de... des étoiles, qu'on pense que c'est des étoiles, mais c'est pas des étoiles, ça bouge trop vite puis ça disparaît.
Parce que nous, on a vu deux planètes de plus, puis on l'a pas encore exploré, fait que je penserais qu'il y aurait des extraterrestres ou des habitants.
Ben nous, les humains, on sait pas encore. Peut-être dans le futur, on va inventer des radars. Ou peut-être les extraterrestres existent, mais peut-être dans une galaxie très loin.
Oui, parce que les extraterrestres se promènent partout avec leur vaisseau.
Parce qu'il y a d'autres humains qui s'en vont par là-bas, à l'espace. Il y a d'autres humains qui s'en vont à l'espace.
Ma question suivante était donc de savoir si les jeunes croyaient que la Terre avait déjà été visitée par d'autres êtres venus d'ailleurs. Et pourquoi pas, si nous sommes encore visités en ce moment par celle-ci?
Aussi parce que j'ai vu aussi quelque chose sur les extraterrestres. Ils ont trouvé des corps extraterrestres dans la Terre, mais déjà morts, genre. Ils sont en train de les étudier, puis... Des fois, des explorateurs qui vont dans le Mont Everest ou comme ça, ils voient des choses blanches ou noires en train de flotter dans les airs, c'est sûr.
Ben, les extraterrestres, ils peuvent déjà voyager la Terre parce qu'on ne sait pas si on voyageait au futur quand on n'était pas là.
Ben, on ne sait pas encore. Peut-être les extraterrestres, ils peuvent inventer comme du métal... puis plein de radars, des boutons comme ça. Donc peut-être eux aussi, ils peuvent se faire une propre fusée.
Moi, je dis que non, parce que moi, pour moi, des extraterrestres, c'est des microbes, puis ça peut pas construire nécessairement une fusée spatiale pour venir sur Terre, comme sur Mars, ils ont trouvé des microbes, mais eux, ils sont pas assez intelligents pour construire des fusées ou peu importe.
Ma question suivante était, pensez-vous un jour voyager dans l'espace vous-même?
Moi, je voudrais beaucoup aller dans l'espace et ça serait sécuritaire puis ça coûterait pas très cher parce que c'est très beau l'espace puis c'est beau.
Moi je dirais que non parce que je voudrais pas être astronaute parce que t'as plusieurs risques à prendre puis t'as moins de chances de survivre.
Non, parce que je suis pas millionnaire puis ça coûte vraiment, mais vraiment des vraiment cher.
Ben, c'est vrai que l'espace, c'est beau, mais ce qui est le plus dangereux, c'est que, ben, ce qui est un peu mélangeant, c'est quand on retourne sur Terre, on voit plein de trucs verts, donc là, c'est difficile d'aller à notre maison, ben, à notre pays.
Un grand merci à César, bénévole à la Maison d'Aurore, située sur le plateau Mont-Royal, d'avoir coordonné cette activité avec nous. Si ça vous tente, vous aussi, de vous prêter au jeu du voyage dans l'espace imaginaire, nous aimerions connaître vos réponses sur Revue-Aube, la page Facebook de l'émission. Pour Aube, c'était un reportage de Philippe Laramé.
Ce que je connais, ce que je peux vous proposer pour regarder l'espace de plus proche, si vous avez un ordinateur, vous écrivez « espace 3D » puis vous allez voir comme tout l'espace en 3D, les planètes dans l'orbe et tout comme ça.
En Chine, au 13e siècle, sous le règne des empereurs de la dynastie Song, il se produisit un mouvement culturel visant à admirer la Lune. Les plus grands poètes, les plus grands écrivains, les plus grands chanteurs n'avaient plus pour source d'inspiration que cet astre haut dans le ciel. Un des empereurs Song, lui-même, poète et écrivain, voulut en avoir le cœur net. Il admirait si fort la Lune qu'il souhaita être le premier homme à y prendre pied. Il demanda à ses savants de fabriquer une fusée. Les Chinois savaient déjà fort bien servir de la poudre. Ils placèrent donc de volumineux pétards sous une petite cahute au centre de laquelle trônerait l'empereur Song. Ils espéraient que la puissance de l'explosion projetterait le souverain sur la Lune. Bien avant Neil Armstrong, bien avant Jules Verne, ces Chinois avaient ainsi fabriqué la première fusée interplanétaire. Mais les recherches préliminaires avaient dû être menées d'une façon trop sommaire. À peine les mèches des réacteurs allumées, ceux-ci se comportèrent exactement comme des feux d'artifice, c'est-à-dire qu'ils explosèrent. Avec son véhicule, l'empereur Song fut pulvérisé parmi les énormes gerbes colorées et incandescentes censées le propulser jusqu'à l'astre de la nuit.
Ça? Mais vers le futur!
Pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur?
Le futur? Mais de quoi tu parles? Comment veux-tu qu'on soit dans le futur? Et nous sommes en l'an 2015?
Le 21 octobre 2015!
Lassage automatique, waouh!
Retourne tes poches de pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers!
Attendez, petite! Hop là, écoute! Tu me prêtes ton... Overboard?
50 ans de sport, tous les résultats. Ce n'est pas le genre de choses qu'on lit pour se détendre.
Mais enfin, Doc, il n'y a pas de mal à rapporter un peu de documentation sur le futur.
Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps dans un but lucratif. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi?
Tout ce qui arrive, c'est ma faute.
Ça, c'est du passé.
Du futur, vous voulez?
Si tu préfères.
Me revoilà. Je suis de retour du futur.
Nom de Zeus.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu un vox avec les enfants de la Maison d'Aurore. Souvenir amer de la guerre. Les fins du monde à travers les âges. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com.
Le jour où les morts-vivants triompheront, le monde basculera dans le chaos. L'ordre social disparaîtra. Ceux qui détiennent le pouvoir s'enterreront dans leurs bunkers ou dans leurs enclaves ultra-sécurisées avec leurs familles et leurs semblables. Après la disparition de la loi et de l'ordre, des petites bandes émergeront pour asseoir leur autorité. Pillards, bandits et autres charognards prendront ce qu'ils voudront et jouiront de tout comme ils l'entendront. Les moyens de communication planétaires cesseront totalement de fonctionner. Des villes isolées seront transformées en champs de bataille, hérissées de barricades dressées par celles et ceux qui combattront les ghouls et les pillards. Les machines livrées à elles-mêmes finiront par tomber en panne, ou dans certains cas, exploser. La fusion des réacteurs nucléaires et autres désastres industriels seront monnaie courante et pollueront durablement l'environnement. La campagne grouillera de zombies. Les villes se videront de leurs habitants et les morts-vivants s'éparpilleront un peu partout à la recherche de proies. Les maisons de campagne et les banlieues seront réduites en cendres, alors que les habitants fuiront, tenteront de résister ou attendront la mort chez eux. Mais le carnage ne se limitera pas aux humains. L'air résonnera des cris des animaux domestiques qui tenteront de protéger leur maître ou des bêtes de somme attachées dans leur étable. Avec le temps, les choses finiront par se calmer, les explosions cesseront et les hurlements s'éteindront. Les zones fortifiées commenceront alors à manquer de provisions, ce qui forcera leurs occupants à affronter les morts pour des missions de récupération, d'évacuation ou lors de simples batailles rangées livrées par des survivants fous de désespoir. La liste des victimes s'allongera encore quand les derniers humains accablés, pourtant bien équipés et bien protégés, se suicideront par milliers. Peu importe ce qui arrive aux survivants, cela ne résoudra pas la question des morts vivants. Silhouettes putrides, aux yeux froids et à la bouche béante, ils se répandront sur Terre et chasseront toute créature vivante passant à leur portée. Mais au commencement, était une nouvelle Genèse. Au chapitre Défense, vous avez appris à tenir un siège jusqu'à ce que les secours vous viennent en aide. Dans le chapitre Fuite et Déplacement, vous avez intégré l'art de couvrir de grandes distances en privilégiant la sécurité. Maintenant, il est temps de vous préparer au pire. À présent, vous et vos proches devez fuir toute forme de civilisation, trouver un endroit isolé et inhabité, et repartir de zéro. Intégrez bien cette donnée si vous voulez survivre. Personne ne va venir vous chercher. Aucun secours n'arrivera jamais. Impossible de rejoindre vos alliés, impossible de vous abriter derrière une quelconque organisation militaire d'envergure. Votre ancienne vie a disparu pour de bon. La nouvelle, par contre, en termes de qualité et de durabilité, dépendra entièrement de vous. Aussi affreux que cela paraisse, n'oubliez pas que l'homme s'est adapté à son environnement et a dû reconstruire son mode de vie à plusieurs reprises au cours des siècles. Même aujourd'hui, alors que nos sociétés nous ont ramolli le corps et l'esprit au-delà du récupérable, le gène de la survie reste enfoui au plus profond de nous. Apprenez à vous passer du luxe inutile. Faire face à une épidémie de catégorie 4 ne vous laissera pas beaucoup le choix. Passer d'une telle abondance au zéro absolu en une seule nuit constitue déjà en soi un choc très violent pour votre équilibre. Commencez donc dès maintenant à vous passer des produits superflus dont vous ne disposerez plus par la suite. Le besoin en vitamines, en sels minéraux et en sucre peut être assouvi par une alimentation naturelle et variée. Certains médicaments comme les analgésiques légers se remplacent facilement par l'acupuncture, différentes techniques de massage ou même la méditation. Toutes ces suggestions peuvent vous paraître un peu trop exotiques ou ésotérico-new age pour nos sociétés occidentales pragmatiques. Souvenez-vous néanmoins que la plupart de ces régimes et méthodes de soins ne sont pas nés en Californie, mais bien dans les pays du tiers-monde où les ressources restent rares. Gardez à l'esprit que les Américains sont pourri gâtés par rapport au reste de la planète. Se pencher sur les cas des « déclassés » vous donnera un aperçu de la bonne manière d'appréhender les problèmes avec des moyens simples à défaut d'être confortables. Même si l'information n'a jamais été aussi bien transmise, partagée et archivée, il est incontestable que les attaques zombies augmentent considérablement, leur fréquence suivant très exactement la courbe du développement socio-économique mondial. À ce stade, les attaques ne feront que croître et deux scénarios probables se dégagent. Première possibilité, les gouvernements de chaque pays reconnaissent publiquement l'existence des morts-vivants et créent par là même des unités spécialement entraînées pour remédier au problème. Dans ce cas, les zombies feront peu à peu partie de notre vie quotidienne. Une partie marginalisée, facilement combattue, avec la probable mise au point d'un vaccin. La deuxième option risque fort de déboucher sur une guerre totale entre les vivants et les morts. Une guerre à laquelle vous voilà désormais préparé.
Pour tout savoir sur la lutte contre les morts vivants, vous pouvez vous référer au Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, publié en 2003. Le livre explique comment survivre à une imminente invasion et développe le sujet de la pop culture du zombie. Narration et adaptation d'Aurélie Superchico. Le post-apocalyptique est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation. Que ce soit une guerre nucléaire, une collision avec une météorite, une épidémie ou une crise économique et énergétique.
Lorsque le ciel, comme c'était le cas ces jours-ci, était nuageux, Robert Neville ne se rendait pas toujours compte de l'approche du soir et parfois, ils auraient pu envahir les rues avant qu'il ne fût rentré chez lui. S'il avait eu l'esprit plus précis, il aurait pu calculer approximativement le moment de leur arrivée. Mais il avait gardé la vieille habitude de s'en remettre à la couleur du ciel. Portant couvert, cette méthode n'était pas sûre, et c'est pourquoi, ces jours-là, il préférait ne pas s'éloigner de sa demeure.
Parfois utilisé simplement pour ses aspects ultra-violents, le post-apocalyptique repose sur un délicat équilibre entre une civilisation perdue et un chaos naissant. Il met en scène une confrontation de la réalité sociale à la dure réalité physique. C'est à la fois la fin du monde et un nouveau départ. Une contradiction riche qui permet de développer un discours original sur le monde réel.
Il fit le tour de la maison, une cigarette collée au coin de la bouche, et examina chaque fenêtre pour s'assurer qu'aucune planche ne manquait. Après certains assauts particulièrement violents, il arrivait que plusieurs fussent fendus ou à demi arrachés. Il lui fallait alors les remplacer et il détestait cela. Aujourd'hui, une seule manquait.
Le roman « Je suis une légende » de Richard Matheson décrit un monde post-apocalyptique ayant sombré dans le désastre des suites d'une forme de maladie ressemblant à une forme de vampirisme.
Dans la cour derrière la maison, il inspecta la serre et le réservoir d'eau. Il craignait toujours qu'il ne s'attaque au réservoir ou ne brise à coups de pierre les vitres de la serre, auquel cas il devait les remplacer aussi. Mais l'un et l'autre étaient intacts. Il rentra dans la maison pour prendre un marteau et des clous. Comme il ouvrait la porte d'entrée, il jeta un regard à sa propre image dans le miroir lézardé qu'il y avait fixé un mois plus tôt. C'était le dernier miroir qu'il mettrait là. Son effet était nul. À sa place, il mettrait de l'ail. L'ail agissait toujours.
Le héros du roman, Robert Neville, est seul au monde, barricadé dans sa maison, en proie aux vagues déferlantes d'une humanité transformée en une forme de vampire.
Jadis, la chambre à coucher était décorée avec soin, mais c'était en un autre temps. À présent, ce n'était plus qu'une pièce utilitaire, et le lit et le bureau de Neville y tenaient si peu de place qu'il en avait fait également son atelier. Il prit un marteau, arracha quelques clous à une vieille caisse et ressortit pour réparer la planche endommagée de la fenêtre.
Écrit en 1952, Matheson fait figure de précurseur d'un genre relativement nouveau pour l'époque, en mélangeant les classiques de vampires avec les histoires de zombies, mettant un genre récurrent, mais qui à l'époque était original.
La rue était parfaitement silencieuse. De chaque côté de sa demeure s'entassaient les ruines carbonisées des maisons voisines qu'il avait brûlées pour les empêcher de sauter de leur toit sur celui de sa propre maison. Puis, il aspira une longue bouffée d'air et rentra chez lui.
Le post-apocalyptique se distingue des fictions de catastrophe qui mettent en scène le cataclysme lui-même. Dans la multitude d'œuvres post-apocalyptiques, deux critères essentiels se retrouvent à chaque fois. La société a été détruite et les protagonistes vivent dans les vestiges de l'ancienne civilisation. La plupart des œuvres offrent une vision où la société est détruite, ses valeurs oubliées ou bafouées, et la majeure partie de l'humanité a disparu.
Il jeta le marteau sur le divan du living room, alluma une autre cigarette et but un coup. Un peu plus tard, il se résolut à gagner la cuisine pour y mettre un peu d'ordre. Mais il n'en avait pas le courage parce qu'il était seul et que ces choses n'avaient plus d'importance pour lui.
Les classiques du genre privilégient parfois un monde plus ambigu et plus proche du nôtre, où des sociétés ont été reconstruites avec des lois et des règles différentes. Les vestiges de l'ancienne civilisation, que ce soit la ville abandonnée ou des corps souvent représentés tels que le désert ou les ruines industrielles, les survivants vivent parfois au milieu de vestiges technologiques sans les comprendre. Au-delà des thèmes classiques de la survie, de la violence, de l'environnement hostile à l'homme, la plupart des œuvres post-apocalyptiques se servent de ce décor pour amener une réflexion sur la place de l'homme par rapport à ses semblables et à la société. Hors du carcan des lois, les hommes révèlent leur vraie nature et le panel de caractères et de comportements non biaisés par la société crée une sorte de laboratoire social où les auteurs expérimentent sur les rapports humains.
Il passa l'après-midi à confectionner des pieux au moyen d'épaisses chevilles de bois qu'il débitait en morceaux de 30 cm de long avant de tailler et d'emmêler la pointe jusqu'à ce qu'elle soit aiguë comme celle d'une dague.
On trouve régulièrement les thèmes du solitaire contre le groupe, de la coexistence des comportements altruistes, égoïstes et agressifs ou le télescopage des nostalgiques de l'ancienne civilisation, des aficionados de l'anarchie nouvelle et des visionnaires voulant créer une nouvelle manière de fonctionner.
Jamais il ne lui laissait le loisir de souffler, de réfléchir. En travaillant, il écoutait les disques qu'il avait mis sur le pick-up. Les 3e, 7e et 9e symphonies de Beethoven. Il était heureux que sa mère, jadis, lui ait appris à aimer la musique, à présent qu'il avait 36 ans et qu'il était seul. Cela l'aidait à supporter le terrible vide des heures.
Le choix du type d'apocalypse, finalement un détail secondaire, est également intéressant car il reflète les craintes de la société à l'époque où l'œuvre a été conçue, au même titre que les films catastrophes. La crainte du nucléaire pendant la guerre froide, les catastrophes écologiques ou industrielles dans les années 80, la pandémie dans les années 90, tandis que dans les années 2000 semble craindre les catastrophes naturelles ou les actes de terrorisme à grande échelle. Narration et adaptation de Philippe Laramé et de Martin Junior Pelletier.
No law at all in Deadwood. Is that true?
On peut le dire, aujourd'hui, le post-apocalyptique au cinéma est à la mode. Mais qu'est-ce qui caractérise un film post-apocalyptique? Pour faire vite, un héros solitaire dans un monde sans foi ni loi. C'est Max dans Mad Max, Ellie dans Le Livre d'Ellie, etc. Mais c'est une situation qui n'est pas sans rappeler un autre genre cinématographique très populaire, le western. Et plus précisément, le western spaghetti et le western crépusculaire. Pour bien comprendre, on peut diviser, pour faire vite, le western en trois sous-genres. Le western classique, qui nous montre le camp des gentils, en général symbolisé par le shérif, très souvent joué par John Wayne, qui représente la loi, contre le camp des méchants, soit des hors-la-loi, soit des indiens, qui sème le désordre dans la communauté en train de se construire. Les westerns classiques sont souvent porteurs d'une certaine propagande et d'un certain patriotisme sur la construction des États-Unis et sur la morale américaine. Et puis est venu le western spaghetti, qui comme son nom l'indique, est réalisé le plus souvent par des Italiens comme Sergio Leone ou Sergio Corbucci, qui eux n'ont rien à faire du patriotisme et de la morale américaine, puisque de toute façon ce n'est pas leur pays. Eux, ce qui les intéresse dans le western, c'est de dépeindre un monde où il n'y a pas d'autre loi que celle du revolver, et ainsi de créer des personnages à la fois héroïques et sombres, pas absolument vertueux, mais terriblement classe. Des héros violents comme Clint Eastwood, qu'on admire autant qu'on craint, contrairement à John Wayne, qui lui respire la vertu. Mais surtout des héros solitaires, se frayant leur chemin sans l'aide de personne ou presque, et sûrement pas avec l'aide de la justice ou de la loi. Et ça, c'est exactement pareil dans le film post-apocalyptique. Dans le monde post-apocalyptique, comme dans le western, seule la violence fait la loi. Et on remarquera par ailleurs que les deux genres partagent une même fascination pour les environnements hostiles, déserts de sable ou déserts de glace. Et cet environnement, dépourvu de toute institution, de toute morale, permet la création de héros ultra charismatiques, capables du pire comme du meilleur, mais toujours très sombres et mystérieux. Et ce type de personnage fonctionne et devient attachant uniquement dans un monde sans foi ni loi, comme celui du western ou celui du post-apocalyptique. Et c'est pour cette raison que ces genres sont si populaires. Pourtant, le cinéma a bien tenté de transposer le type de personnage dans des mondes plus institutionnalisés. Le meilleur exemple reste certainement Dirty Harry de Don Siegel, grand réalisateur de western d'inspiration spaghetti, avec Clint Eastwood, acteur-personnage ultime du genre en rôle-titre.
How about that long-haired fucking blowhard, huh? I'll tell you this, son, you can mark my words. Crazy Horse winning that little bighorn bought his people on good long-term ass fucking. You do not want to be a dirt-worshipping heathen from this fucking point forward. Pardon my French.
Oh, I speak French.
Et ici, le personnage eastwoodien, sombre et charismatique, qui règle les conflits par les armes et la violence, se retrouve propulsé dans le San Francisco contemporain. Et à sa sortie, le film, malgré son succès, a suscité de vives polémiques à cause justement de ce personnage à la morale discutable. Et pourtant, ce type de personnage n'a jamais posé problème à personne dans le western, car le cadre le tolérait, exactement comme le post-apocalyptique. Enfin, dernier genre de western dont le post-apocalyptique a beaucoup hérité, c'est le western crépusculaire. Dans le sillon du western spaghetti, le western crépusculaire est en revanche un style purement américain, qui prend à l'envers les codes du western classique. Ici, les sociétés sont toutes corrompues, les shérifs sont de mèche avec les brigands, le monde est peuplé d'anti-héros ni bons ni mauvais qui essayent simplement de se frayer une place. Là où le western classique était une sorte d'allégorie de la morale et du patriotisme américain, le western crépusculaire est une métaphore des problèmes contemporains de la société américaine. Et les sociétés que nous montrent de nombreux films post-apocalyptiques, qui se sont construites après l'effondrement de nos sociétés actuelles, sont toujours des sociétés où règne le mal, l'égoïsme et la violence. De Hunger Games à Divergente, pour ne citer que ces films. Et dans ces films, difficile de ne pas voir, souvent avec de très grosses ficelles, la métaphore de problèmes actuels comme le racisme ou le sectarisme. Car le western, comme le post-apocalyptique, nous montre à chaque fois des sociétés effondrées ou balbutiantes et par définition imparfaites, permettant ainsi toutes les possibilités de représentation. Là où un monde plus régulé, comme nos sociétés contemporaines, se doivent de respecter, elles, un nombre de règles préétablies.
I don't want to talk to these cocksuckers, but you have to. In life, you have to do a lot of things you don't fucking want to do. Many times, that's what the fuck life is, one vile fucking task after another. But don't get aggravated. Then the enemy has you by the short hair.
C'était une chronique cinéma de Pierre Charpioz. Le croiseur interstellaire Raptor amorça sa descente sur la planète ressource Esperanza du système Arturion. Le commandant Vega donnait les instructions nécessaires en vue du déploiement des chasseurs en vue d'une attaque totale, définitive et démesurée contre le semblant de résistance organisé par les indigènes locaux. Cette planète allait servir d'exemple pour tous les systèmes environnants.
Paré pour le débarquement, commandant.
Bien. Tir de semences sur l'astroport, ionisation complète des communications, bombardement sur tout vaisseau de plus de 2 mètres ayant des visées belliqueuses.
Bien, commandant.
Sauf votre respect, les hôpitaux et les écoles semblent dangereusement rapprocher des cibles convoitées. Je suggère...
Oseriez-vous discuter mes ordres, sergent?
Mais enfin, Commodore, c'est que...
Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Feu à volonté!
Le ciel s'obscurcit d'un essaim d'ornithoptères vrombissant tels des libellules noires se rapprochant de plus en plus de la cité souveraine d'Esperanza. Selon les spécialistes de l'histoire officielle, cette petite planète agricole n'avait point connu de guerre depuis plusieurs centaines d'années. La surprise des impériaux fut totale lorsque des canons anti-aériens répliquèrent la première vague, décimant les rangs trop confiants des ornithoptères.
Commodore, une forme de résistance semble s'être organisée au sol.
Je veux des droïdes espions sur le terrain. Rapport détaillé sur les forces en présence. Déployez les forces au sol en vue d'une prise de la cité par voie terrestre.
Au moment où la deuxième vague de libellules noires déferla sur la cité, bombardant de missiles ionisants, la frégate rebelle Libertad sortit de l'hyperespace, prenant totalement par surprise le croiseur impérial.
Escadron bémol, à vous de jouer.
Nous avons la cible en vue. Canon à plasma armé, feu à volonté.
Visez les flancs et la passerelle du croiseur impérial.
Chef, nos canons semblent inoffensifs face à leur écran de force. Tout porte à croire que nous avons affaire à une nouvelle technologie encore inconnue.
La minuscule frégate de l'Alliance Rebelle n'était pas de poids contre le cuirassé de l'Empire lourdement armé avec son tout nouvel écran de force romulanaise. Seul un croiseur interstellaire de classe C pouvait encore ne serait-ce que de tenter de l'effleurer.
Préparez le canon à ions. L'impérateur veut l'équipement intact et les rebelles en état de parler.
Préparez le canon à ions!
Au moment où le canon projeta sa gerbe de particules ionisantes, une explosion fit secouer le croiseur des impériaux. Plusieurs centaines de personnes périrent lorsque le vide s'engouffra subitement à l'intérieur de la salle des machines.
Que s'est-il passé? Canonnier au rapport!
Sur l'écran de communication, un feu ravageait une salle des machines en alerte maximale. Le canonnier en chef, le visage couvert de suie, dirigeait des hommes qui couraient en tous sens.
Commandant! Commandant! Nous avons été sabotés. Il y a un traître à bord. Voici les images des caméras de surveillance. J'ai communiqué à votre investigateur les informations menant à toutes les informations importantes.
Une deuxième explosion secoua le vaisseau, réduisant à néant la salle des machines. La frégate rebelle, profitant de la brèche dans la protection du croiseur impérial, concentra tous ses canons par la brèche causée par l'explosion de la salle des machines. Pendant ce temps-là, au sol, les rebelles infiltrés sur Esperanza luttaient sur tous les fronts contre des forces impériales suréquipées et beaucoup mieux entraînées. La connaissance du terrain donnait par contre un certain avantage aux rebelles, mais le surnombre limitait son influence.
Droïde espion de classe Arcanoid X-32 au rapport. Une force rebelle importante est en présence sur Esperanza. Évaluation des forces à venir. Dispose de canons antiaériens au sol. Une flotte de chasseurs est prête à...
Un coup de disrupteur fit éclater le droïde espion en plusieurs fragments de particules électroniques.
Préparez un destructeur de planète. Nous allons écraser cette infection avant qu'elle ne se propage et donner un exemple à l'ensemble des sous-systèmes de secteur.
À ces mots, un silence de mort s'abattit sur la passerelle du croiseur impérial. Jamais encore les hauts officiers n'avaient fait usage d'un destructeur de planète. Arme maudite rarement utilisée tant sa portée destructive était difficile à évaluer.
Un de vous aimerait contredire mes ordres? J'ai ordonné la préparation d'un destructeur de planète.
L'atmosphère était tendue sur la passerelle. Personne ne semblait vouloir être responsable de ce crime contre l'humanité.
Mais... mon Commodore, il y a sûrement d'autres options!
Le Commodore fit usage de son pouvoir psionique sur le sergent récalcitrant. Le sergent tomba à genoux en se retenant sa tête de douleur, les veines bouillonnantes, son crâne gonflé par le sang.
J'ai dit exécution!
Dans la salle des commandes, les hauts officiers sortirent immédiatement de leur torpeur et exécutèrent les ordres du Commodore pendant que le sergent agonisant sur le plancher s'agitait en tous sens. Pendant ce temps, dans la soute à missiles du croiseur impérial, le rebelle infiltré faisait l'inventaire de l'armement à bord du vaisseau.
Non, ce n'est pas possible. Est-ce bien un destructeur de planète que je vois là? Je croyais que cette arme était pure mythologie. Je dois trouver un moyen pour saboter cet engin de destruction. Ah, mais que vois-je là? Le projet NOAA, un accélérateur de vie pour planètes ressources en devenir. Je vais trafiquer les coordonnées du destructeur de planète afin que, si les impériaux décident de l'utiliser, ce soit NOAA qui soit largué sur la planète.
Tiens, tiens, voici notre saboteur. J'étais certain de vous trouver ici.
L'investigateur venait de surprendre le rebelle infiltré alors que celui-ci terminait de préparer le transfert des missiles. L'investigateur dégaina son disrupteur. Le rebelle plongea derrière les machineries et une course-poursuite s'engagea pendant que les commandes automatiques de mise à feu chargèrent le missile NOAA dans la soute à missiles. Malgré les grandes compétences de l'investigateur, il n'osa pas tirer de peur de faire sauter le croiseur interstellaire au grand complet. Il préféra dégainer sa chimio-rapière, son arme de prédilection. Au sol, les impériaux avaient subi de lourdes pertes et chacun des points forts du combat étaient défendus par les rebelles et les habitants de la cité souveraine. Les forces impériales reçurent alors l'ordre de se retirer de la cité. Les rebelles, voyant la défaite des impériales imminente, poursuivirent les forces en débandade et firent de graves dommages dans l'armée en déroute.
Le destructeur de planète est paré, Commodore.
Et les forces terrestres se sont retirées du front.
Yeah.
Le Commodore savourait le pouvoir de mort résidant par sa seule volonté.
Démolécularisez-moi cette capitale.
Le combat au corps à corps était férocement engagé entre l'investigateur et le saboteur rebelle lorsque le sas à missile fut ouvert pour l'armée des destructeurs de planète. La brusque irruption de vide prit l'investigateur au dépourvu et se fit brutalement aspirer vers l'espace au même moment que le missile. Le rebelle, ayant prévu le coup, s'était agrippé solidement et luttait de toutes ses forces contre les forces du vide intersidéral qui l'envahissaient et l'étouffaient. NOAA tombait doucement sur Esperanza avec, chevauchant le missile solidement agrippé à ses côtés, l'investigateur se consumant déjà dans l'atmosphère de la planète. Un silence de mort régnait dans la salle des commandes. Pendant que les hauts officiers assistaient impunément à la destruction de la capitale et à la mort d'une centaine de millions d'innocents, au sol, les rebelles célébraient déjà leur victoire lorsqu'un éclaireur au regard vif vit le missile descendre vers eux, éclipsant le lever d'un des deux soleils.
Regardez! Planquez-vous, fuyez!
L'impact de NOAA fit trembler la Terre, mais au lieu d'une déflagration, ce fut un nuage de poutre dorée qui s'éleva dans l'atmosphère, recouvrant la cité souveraine d'un nuage opaque. La végétation, sensible à cette magnifique force de vie, décupla de vigueur et se déploya à une vitesse inquiétante. En l'espace de quelques minutes, la cité souveraine fut recouverte de végétaux, s'épaississant jusqu'à devenir une véritable jungle luxuriante.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien la première fois que j'entends parler que les impériaux pouvaient lancer des fleurs.
Dans la salle des commandes, la colère s'était emparée du Commodore et plusieurs sous-fifres payaient sa mauvaise humeur de leur vie. Pendant ce temps, dans la salle des machines, le saboteur rebelle avait terminé de poser les derniers détonateurs thermaux qui allaient faire exploser le destructeur de planètes au sein même du croiseur interstellaire. Il eut juste assez de temps pour gagner une des capsules de sauvetage avant que le croiseur n'explose dans un fracas sans bruit, puisque dans l'espace, personne ne vous entend crier. Le système solaire tout entier fut déclaré par l'Impérator hors la loi et de nombreuses expéditions punitives furent intentées sans succès. L'effet Noah s'est maintenant propagé à l'ensemble de la planète, la recouvrant maintenant d'une épaisse jungle de plusieurs centaines de mètres de hauteur, offrant une couverture privilégiée à la force rebelle grandissante au sein du funeste Empire galactique. C'est ce qui conclut cet épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, Marie-Claude Journeau, Aurélie Superchico, Jean-Baptiste Gardarin, Annie Schneider, Martin Junior Pelletier, Pierre Charpiose, Guillaume Lambe et Maude Campeau. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.